Chapitre 7. Le monorail était descendu aux abords de l'encoche dans le mur, les plaçant à pas plus de 90 mètres au-dessus du sol, ce qui amplifia le choc quand ils émergèrent de l'autre côté. Ils filaient en effet à une hauteur vertigineuse, 250 mètres, peut-être 300. Roland, par-dessus son épaule, jeta un regard au mur qui disparaissait à présent derrière eux. Il avait paru très haut tandis qu'il s'en approchait, mais vu de cette perspective, il avait l'air chétif en vérité, un ongle de pierre brisée accroché au bord d'un vaste promontoire stérile. Des falaises de granit, détrempées de pluie, plongeaient dans ce qui apparaissait au premier coup d'œil comme un gouffre sans fond. Juste à l'aplomb du mur, le roc était tapissé de larges trous circulaires pareils à des orbites vides. Une eau noire et des vrilles d'une brume purpurine en jaillissaient en flots saumâtres, boueux, et se répandait sur le granit en un chevauchement d'éventails nauséabonds qui avait l'air presque aussi ancien que le roc lui-même. « Ce doit être le dépotoir de la cité, » pensa le pistolero. « Tous les déchets se déversent dans une fosse. » Sauf qu'il n'y avait pas de fosse. C'était une plaine submergée. C'était comme si le pays au-delà de la cité avait été posé au sommet d'un élévateur titanesque à toit plat, et qu'à quelques moments d'un passé imprécis, oublié, l'élévateur fut descendu, emportant un énorme morceau de monde avec lui. Le rail unique de Blaine, centré sur son étroit chevalet volant au-dessus de ce pays déchu et au-dessous des nuages lourds de pluie, semblait flotter dans un espace vide.
« Qu'est-ce qui nous maintient en l'air ?» demanda Suzanne.
« Le rayon, bien sûr. » « Toutes choses le servent, vous le savez. Regardez en bas. Je vais demander un grossissement par 4 aux écrans du cadran inférieur. »
Roland lui-même sentit le vertige lui nouer les tripes quand le paysage en contrebas sembla s'enfler vers l'endroit où il flottait. L'image qui apparut était laide au-delà de tout ce qu'il avait pu rencontrer comme laideur. Et des choses hideuses, hélas, il en avait vu son compte. Les terres sous eux avaient été fondues et dévastées par quelque terrible événement, le cataclysme funeste qui avait poussé cette partie du monde à s'abîmer en elle-même d'abord, c'était indéniable. La surface de la terre s'était muée en vert noir tordu, bosselé de fragments rocheux et de tortillons qu'on ne pouvait à proprement parler appeler des collines, et déformé vers le bas en fêlures et plis profonds qu'on ne pouvait à proprement parler appeler des vallées. Quelques arbres de cauchemar rabougris lançaient vers le ciel des branches difformes qui, à cause du grossissement, semblaient vouloir happer les voyageurs comme des bras de démons. Ici et là, des amalgames d'épais tuyaux de céramique perçaient la surface vitreuse du sol. Certains semblaient hors service ou en sommeil, mais dans d'autres, ils voyaient les lueurs d'une étrange lumière bleu-vert, comme si des forges et des fourneaux titanesques fonctionnaient sans relâche dans les entrailles de la terre. Des créatures volantes et contrefaites qui ressemblaient à des ptérodactyles circulaient entre ces tuyaux en battant leurs ailes coriaces, se mordant çà et là les unes les autres de leurs becs crochus. D'immenses nichées de ces horribles aviateurs, perchés sur la surface tubulaire d'autres amas de canalisation, se réchauffaient apparemment au courant d'air chaud qui montait des éternels feux souterrains. Ils survolèrent une fissure horizontale zigzagant le long d'un axe nord-sud, pareil au lit d'une rivière morte. Sauf qu'elle n'était pas morte. Loin dans ses profondeurs reposait un mince fil du plus sombre écarlate qui battait comme un cœur. Des fissures plus petites en partaient, et Susanna, qui avait lu son Tolkien, pensa « C'est ce que virent Frodon et Sam quand ils atteignirent le cœur de Mordor. Ce sont les crevasses du destin. » Une fontaine ardente jaillit juste au-dessous d'eux, vomissant des roches flamboyantes et des morceaux de lave filandreux. Pendant un moment, il leur sembla qu'ils allaient être engloutis par les flammes. Jake cria et remonta les pieds sur son fauteuil, étreignant Otté contre sa poitrine.
« T'inquiète pas, petit pied tendre, » traînailla John Wayne. « Souviens-toi que tu la vois plus grosse qu'elle n'est. »
Le flamboiement mourut. Les roches, certaines de la taille d'une usine, retombèrent en un orage silencieux.
Susanna, surprise, s'aperçut qu'elle était transportée à la vue des sinistres horreurs qui se dévidaient sous eux, qu'elle était prise dans une fascination morbide qu'elle ne pouvait briser. Et elle sentit que la part d'ombre de sa personnalité, cette facette de son kef, qui était Detta Walker, était plus qu'une passive spectatrice. Cette partie d'elle-même s'abreuvait à cette vision, la comprenait, la reconnaissait. En un sens, c'était l'endroit que Detta cherchait depuis toujours, la contrepartie physique de son esprit malade et de son cœur dément, désolé. Les collines stériles au nord et à l'est de la mer occidentale, les bois détruits autour du portail de l'ours, les plaines vides au nord-ouest de la Sinde, tous manquant de relief en comparaison de cette vision fantastique, infinie, de la désolation. Ils étaient arrivés aux Drawers et pénétraient dans les terres perdues. Les ténèbres vénéneuses de ce lieu maudit les enveloppaient à présent de toutes parts.